Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Fille de Nehru, qui fut le premier des premiers ministres de l'Inde, Indira Gandhi était devenue à son tour premier ministre en 1966 et le resta jusqu'en 1977, avant de revenir au pouvoir en 1980. En 1984, elle était assassinée par deux de ses gardes du corps, des Sikhs, quelques mois après qu'elle eut ordonné l'assaut contre le temple d'or au Pendjab, temple le plus sacré des Sikhs, pour en déloger les séparatistes qui s'y étaient retranchés. Une opération militaire dont le bilan varie selon les sources, entre 500 et 1500 morts parmi les civils. Indira Gandhi est avec celle de son père la figure qui domine l'histoire politique de l'Inde d'après l'indépendance. En 1973, alors qu'elle était Premier ministre depuis 7 ans, les après-midi de France Culture proposaient un double portrait de celle qui fut avec Nehru, Nasser, Tito et Castro l'une des grandes voix des pays non alignés. Un portrait par Indira Gandhi elle-même, l'autre par celui qu'en faisait le journaliste et écrivain Max-Olivier Lacan, qui la connaissait de longue date et voyait en elle le plus grand homme d'État que l'Inde avait jamais eu. Étaient notamment évoquées les origines familiales d'Indira Gandhi, son implication dans la vie politique dès son plus jeune âge, les circonstances de son accession au pouvoir, les questions de politique intérieures et extérieures qui se posaient à elle en 1973, la relation de son pays avec le Pakistan et avec ses deux imposants voisins, chinois et soviétiques. Les après-midi de France Culture, un portrait de Indira Gandhi, proposé par Olivier Varin, avec Max-Olivier Lacan et Manjit Chaouza, une émission diffusée la première fois le 21 septembre 1973.
Olivier Varin, pour terminer cet après-midi, vous nous proposez un portrait, le portrait d'une femme très célèbre qui fait parler beaucoup d'elle, qui a beaucoup de charme, beaucoup d'allure, très intelligente, j'imagine, et une femme politique, ce qui est en fin de compte assez rare, c'est Madame Indira Gandhi. Vous avez demandé à Max-Olivier Lacan, qui la connaît, de venir avec vous pour retracer un peu, pour nous évoquer un peu ce personnage qui a l'air assez sorti du commun, enfin qui n'est pas une femme ordinaire.
Oui, et Max-Olivier Lacan est un très vieil ami de Madame Gandhi puisqu'il la connaît depuis 1947, mais avant de lui demander son portrait d'Indira Gandhi, on va écouter l'autoportrait d'Indira Gandhi que j'ai extrait des archives de notre maison.
Oh, j'aime les enfants, j'aime les jardins, les fleurs, surtout j'aime la montagne, je pense, j'aime beaucoup la montagne. Et puis j'aime lire, j'aime la musique, j'aime l'art, la peinture. J'aime aussi des films s'ils sont bien faits. J'aime la musique d'Occident beaucoup, et aussi la musique de l'Inde, le chant du peuple. Kanda karunalaya vajam agayame. Quand je me suis mariée, c'était un homme qui n'était pas de mon religion. Et aussi, il était de mon pays, mais il est venu de l'Iran avant. Il était pauvre. Alors, j'ai eu toute, pas la famille, enfin pas mon père, mais tous les autres gens étaient très très fâchés. Et j'ai reçu des millions de lettres partout l'Inde. On va vous couper votre gorge, on va faire ça, toute espèce. Et puis pourquoi vous ne pouvez pas trouver un hindou à marier, tout ça, puis... Et j'avais un tout petit peu peur de ma grand-mère, de lui faire mal, vous savez. parce que ma mère était déjà morte et j'aimais beaucoup ma grand-mère. Mais quand je lui ai dit tout ça, elle a dit non, ça va. La chose qui est difficile est que tu es habitué à une vie confortable. Comment est-ce que tu vas vivre si vous n'avez pas de l'argent? Alors je dis, mais je peux gagner de l'argent. Et elle n'a pas dit, non, il ne faut pas faire ça. Elle a dit, tu as de la chance, tu peux faire ça. En autre temps, on ne pouvait pas. Maintenant, pour une vieille dame qui était tout à fait dans un autre milieu, d'avoir une réaction comme ça.
Max-Olivier Lacan, Madame Gandhi a commencé ce portrait en disant « J'aime les fleurs ». Tout d'abord, Indira Gandhi, il faut le dire, c'est la fille de l'homme à la rose, la fille de Nehru.
Oui, Indira Gandhi est la fille de Nehru et elle sort, comme son père, d'une famille de brahmines du Cachemire, c'est-à-dire le sang le plus bleu de l'Inde. L'ancêtre des Nehru était un Cachemiri, un homme du Cachemire, et qui s'appelait, je crois, Cole, et qui est venu à la demande d'un des derniers grands moghols, et qui s'est installé à Allahabad, qui est une ville de la vallée de la plaine du Gange, la vallée du Gange, et où la famille Nehru s'est installée et a prospéré dans le sens des arts libéraux. Notamment, la famille de Nehru était une famille de juristes, d'avocats. Et le grand-père d'Indira, Motilal Nehru, était un père, donc le mari de la grand-mère à laquelle elle fait allusion, était un personnage tout à fait célèbre, très anglicisé, et qui a envoyé son linge blanchir à Londres, de l'Inde, ce qui était tout de même assez étonnant. Ça veut dire que c'est des gens qui n'étaient pas sans moyens, comme on dit. Et le jeune Nehru, le père d'Indira, a été envoyé par son père faire ses études dans les collèges les plus aristocratiques de l'Angleterre. Il a été à Harrow pour faire ses études secondaires et ensuite à l'université de Cambridge. Et il s'est marié avec Kamala, dont il parle souvent, qui était la mère d'Indira. Indira ressemblait à son père et ressemblait à sa mère aussi. Je l'ai connue, elle, en 1947. Je suis arrivé en Inde au moment du plan Mountbatten. Je suis resté pendant plusieurs années. Et elle était encore toute jeune femme. Elle avait une trentaine d'années à ce moment-là. Et elle s'occupait de son père. C'était elle qui faisait l'hôtesse de son père. Mais elle avait déjà un passé politique.
Elle était déjà mariée à cette époque-là.
Elle était mariée. Elle s'est mariée, je crois, à 24 ou 25 ans.
Et c'est à cause du sang bleu dont vous parliez tout à l'heure.
C'est à cause du sang bleu qu'elle a eu ses ennuis. Parce que son mari était d'une très bonne famille, Feroz Gandhi, sans aucun rapport avec le Mahatma. C'est un nom assez répandu sur la côte ouest de l'Inde. Et le mari de Madame Indira Gandhi, Feroz Gandhi, était d'origine parsi, c'est-à-dire d'une famille d'origine iranienne. Les parsis sont des descendants des Iraniens qui sont venus pour éviter pour fuir les musulmans au cours des siècles, sont venus de l'Iran. Et c'était une sorte de, on peut pas parler de mésalliance. Et bon, il était pauvre, d'accord, mais en Inde, la pauvreté ne compte pas. Ce qui compte, c'est les mariages mixtes. Et on a dit, je ne sais pas si c'est vrai, c'était certainement un mariage d'amour, mais on a dit aussi que dans l'idée de la famille Nehru, il y avait une volonté de montrer au reste du pays un certain modernisme en mariant ces filles qui venaient de la brahminerie du Cachemire la plus pure et la plus irréfutable, et de les marier avec des gens qui venaient d'autres milieux, que l'Inde devait être, qu'il devait y avoir un brassage dans l'Inde, et que d'abolir le système des castes, il fallait montrer l'exemple. Et je pense que dans la famille Nehru, il y a eu cette idée, étant donné que d'autres membres de la famille Nehru se sont mariés avec des gens de castes différentes. En principe, on se marie entre brahmines et entre brahmines de certaines sous-castes, surtout quand on vient du Cachemire, jusqu'à la génération de Nehru. Dans sa famille, tous les Nehru s'étaient mariés avec des filles de brahmines du Cachemire.
C'était un mariage politique, en quelque sorte.
Je ne sais pas si c'était au départ un mariage politique, mais en tout cas, il l'a été. Et il a fait symbole.
Et dans ce qu'on vient d'entendre, Indira Gandhi disait que, à sa grand-mère qu'elle pouvait travailler. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à travailler avec son père?
Je crois qu'elle a travaillé, enfin je ne sais pas ce qu'on appelle exactement travailler, et elle a une vie toujours très active. Elle a commencé, la vie d'Indira s'est trouvée marquée par la campagne de Gandhi, alors le Mahatma, et dont son père était le bras droit depuis très très longtemps, et la campagne de résistance civile et de non-coopération, qui était celle dans l'Inde depuis déjà le début depuis les années 1920. Et elle a commencé toute jeune, parce qu'elle est née en 1917, et à l'âge de 12 ans, elle a fondé une organisation pour enfants, et dont l'idée était d'aider les mouvements de non-coopération avec les Anglais. Ça s'appelait, je crois, le Vanar Sena, et c'était une organisation enfantine, mais où les enfants se réunissaient, brandissaient des petits drapeaux quand il fallait. Et si bien qu'elle a mené cette existence toute sa vie. Et elle a même été en prison, Indira Gandhi. Elle a passé 13 mois en prison au moment où son père y était.
Oui, c'était assez curieux parce qu'il y a ce dualisme en elle. Ça a l'air d'être une personne extrêmement féminine, d'après l'interview qu'on vient d'entendre. Et en même temps, c'est depuis très longtemps une femme politique. Vous venez de me dire.
Oui, c'est depuis très longtemps une femme politique. En même temps, elle est très féminine, comme peut l'être une femme indienne particulièrement. Elle aime les oiseaux, comme elle dit, c'est vrai. Et je crois que c'est une de ses passions. C'est ce que les Anglais appellent bird watching, c'est-à-dire observer les oiseaux. Ça n'existe guère en France. Mais en Inde, d'ailleurs, c'est plus facile à pratiquer qu'en France, parce qu'en Inde, il y a énormément d'oiseaux. On ne tue pas les oiseaux, on les regarde. Et c'était une des joies de l'Inde, d'ailleurs, c'est de voir voler les oiseaux un peu partout.
Bien, alors, elle a suivi son père Nehru pendant très longtemps. Et comment est-ce qu'elle est venue au pouvoir, finalement?
Elle est venue au pouvoir, et son père est mort en 1964, au mois de mai, si j'ai bonne mémoire. Et le problème de la succession de Nehru était excessivement compliqué et difficile. Car Nehru était au pouvoir depuis le début de l'indépendance de l'Inde. Nehru était le leader incontesté de l'Inde et un porte-parole mondialement connu. Par conséquent, pour le remplacement de Nehru, la question qu'on se posait quand Nehru a commencé à être malade, on se posait la question qui était non pas après Nehru qui, mais après Nehru quoi. Car la disparition de Nehru, c'est un peu toutes choses égales d'ailleurs, la disparition d'un personnage aussi important que sur la scène politique mondiale et nationale que le général de Gaulle. C'était une nouvelle ère qui devait s'ouvrir. Et Nehru était remplacé, après sa mort, par un personnage un peu falot. Les hommes politiques de l'Inde, personne ne voulait prendre la suite de Nehru, personne ne voulait, essuyer les plâtres de ce que serait l'Inde après Nehru. Et le Congrès, qui est le parti dominant, la majorité, s'est mise d'accord pour pousser un personnage qui était un homme politique connu, un petit homme, très modeste, et qui n'a pas osé dire non et qui a accepté la redoutable charge de succéder à De Gaulle. Il a duré à peu près un peu moins de deux ans.
De succéder à Nehru.
Il a succédé à Nehru, ça a duré un peu moins de deux ans. Il est mort d'une crise cardiaque peu de temps après avoir rencontré le président du Pakistan alors. Il y avait eu cette guerre du Pakistan en 1964, je ne sais pas si vous vous souvenez,
oui,
entre l'Inde et le Pakistan, et les Russes avaient offert une sorte de médiation. Il y avait eu une conférence à Tashkent où le petit Lal Bahadur Shastri s'est trouvé à côté de l'immense président du Pakistan, Ayub Khan, qui n'est plus président depuis longtemps. Mm-hmm. Et c'est en revenant de cette conférence que Bahadur Shastri a une crise cardiaque qui l'a terrassé. Et c'est à la suite de cet événement que Indira a été poussée. Le précédent d'une femme premier ministre de l'Inde n'existait pas, du moins dans les temps modernes. Et elle a été poussée par, je crois pouvoir dire, et je crois que personne ne me démentira, que un certain nombre de gros messieurs du Congrès l'ont poussée là afin qu'elle se casse la figure, comme on dit vulgairement. Et Indira Gandhi, non seulement ne s'est pas cassé la figure, elle a d'abord commencé comme ministre sous Bahadur Shastri.
Bien, on va continuer un peu plus tard la vie politique, alors la vie publique d'Indira Gandhi, mais pour compléter ce portrait, nous avons avec nous Madame Manjit Chawla. Est-ce que je prononce correctement?
Oui, c'est ça, Manjit Chawla.
Chawla. Oui. Et est-ce que vous pouvez d'abord nous dire quels sont vos liens avec Madame Gandhi, en dehors de la nationalité?
Oui, je ne parle pas bien français, monsieur, vous savez. Je parle anglais.
Oui, si vous voulez.
Oui. I have met Indira Gandhi in Simla when she came to have a talk with Mr. Bhutto.
J'ai rencontré Madame Gandhi à Simla quand elle est venue parler avec Monsieur Bhutto.
She's a very wonderful woman, has a great personality.
C'est une femme qui a une personnalité extraordinaire.
And she's very much loved by everybody in India, you know, and especially after the elections, you know, she's had so much sway over all the millions of people.
Elle est très aimée de tout le monde en Inde, et depuis les élections, elle a une influence extraordinaire sur tout le monde.
Mais qu'est-ce qu'elle, est-ce que vous comprenez mon français? Qu'est-ce qu'elle représente pour les Indiens? Est-ce que c'est parce que c'est la fille de Nehru ou bien est-ce qu'elle s'est affirmée?
No, not because she's the daughter of Nehru, but because on her own way, you know, she has established herself as a great politician.
Ce n'est pas parce que c'est la fille de Nehru, mais c'est sur ses propres mérites et ses qualités politiques.
She had a great training with her father, of course, because she lived with him. And she had great training with him, you know, visiting foreign countries. She had lots of experience, but that was the only thing.
Bien.
La vie avec son père a été pour elle la base de son expérience, mais c'est tout.
C'est sur cette femme qu'est tombé le gros fardeau de diriger l'Inde, et on va maintenant l'écouter un petit peu exposer certains de ses problèmes intérieurs.
Quand j'allais dans un village, si je voulais entrer dans une maison d'un caste qui était plus bas...
Oui, des intouchables.
Intouchables. Alors, c'était pas moi qui étais gênée, c'était eux. Ils disaient, non, vous pouvez pas entrer, c'est très, très mauvais, c'est mauvais pour nous. Même si vous ne pensez pas, c'est mauvais pour nous. Et puis, si je disais, non, il faut que vous appreniez quelque chose et vous faites des autres métiers... Et tout ça, ils disaient, non, c'est pas possible, et nous ne voulons pas, laissez-nous seuls, et des choses comme ça. Mais après l'indépendance, ils ont tout de suite commencé à demander des choses. Nous voulons des hôpitaux, nous voulons des écoles, et puis pourquoi nous n'avons pas ça? Vous savez, chez vous, en Europe et en Amérique, vous avez eu la révolution industrielle d'abord.
Oui.
Et puis ça a donné au pays une base. Et après ça, l'éducation est venue, et après ça, la conscience politique. Alors, quand les gens ont commencé à demander des choses, vous aviez des choses à leur donner. Mais ici, nous avons commencé avec la conscience politique. Après, pas encore la base industrielle, mais il y a tout le temps la demande. Mon père était un homme qui était très rationnel et moderne, mais il comprenait aussi la tradition. Et parce que les gens l'aimaient beaucoup, il a pu faire cette bridge, ce pont.
Oui.
Maintenant, il me semble que c'est pire avec toutes les tendances qu'on voit maintenant. Les forces du tradition sont plus fortes maintenant, il me semble. Et surtout parce que je crois que les gens qui orthodoxes pensent que c'est maintenant ou jamais de revenir, n'est-ce pas? Le mouvement pour la vache, il y a certainement un peu de religion là-dedans, mais c'est surtout de la politique. Parce que pourquoi tous ces gens-là, ils ne sont pas des bébés, ils sont des hommes âgés, grands, mais ils n'ont pas dit un mot pendant que les Anglais étaient ici et tout le monde mangeait des beefsteaks. Pas tout le monde, mais enfin les Anglais. Alors ils n'ont pas dit un mot. C'est seulement depuis que nous sommes indépendants qu'ils ont commencé.
Vous pensez que ce sont des prétextes à faire de la politique?
Oui, et parce que c'est un sentiment qui peut faire, qui agit le peuple simple. Ce qui le fait difficile en ce moment, c'est qu'il y a plusieurs courants au même temps. Il y a les différences entre les États, et puis il y a les différences de développement même dans un État. Et puis, il y a la lutte contre la tradition et la modernité. C'est un âge de transition. Et ça, c'est toujours difficile, n'importe où.
Mmh.
Gandhi vient de parler de deux problèmes que tous les Européens connaissent, je crois. C'est celui des castes et des intouchables et celui des vaches sacrées. Mm-hmm. Est-ce que ça représente, Max-Olivier Lacan, un des problèmes de l'Inde d'aujourd'hui ?
Je crois que c'est un problème de l'Inde éternelle. C'est un problème qui n'est pas encore résolu. Mais que Indira Gandhi a eu le courage extraordinaire d'empoigner et d'appréhender. Son père, Nehru, qui était le grand homme que l'on sait, était davantage tourné vers l'extérieur, vers le rôle de l'Inde dans le tiers-monde et le rôle de l'Inde dans le monde, si bien qu'il a parfois un peu négligé ces problèmes-là, considérant comme acquis ce qui était inscrit dans la Constitution ou ce qui, selon lui, devait découler de la modernisation du pays. Or, dans les faits, on s'est aperçu que l'intouchabilité est restée un problème majeur à l'intérieur de l'Inde, qu'avec les intouchables et les tribus non entrées dans la communauté indienne, il y a 80 millions d'Indiens qui ont un statut qui n'est pas exactement le même que celui des autres, qui est inférieur, et que, de notre côté, le problème des vaches sacrées, c'est encore un de ces problèmes bateaux, comme elle dit très justement dans cette interview, c'est un problème qui est devenu un problème politique, beaucoup plus qu'un problème de religion. Eh bien, Indira Gandhi a eu le courage d'aborder ces problèmes et elle a mis son pouvoir, son gouvernement, je crois que c'est il y a 3 ans ou 4 ans, à l'épreuve quand les adversaires, les conservateurs religieux, soi-disant, en fait les opposants à Indira Gandhi, ont réussi à mettre sur pied 500 000 personnes dans la ville de Delhi ou 600 000 personnes, faire une manifestation monstre avec des jeunes, des gens de tous les âges pour le rétablissement de l'abolition d'une loi ou d'un décret qu'elle avait signé concernant, enfin, qui restreignait les droits prescriptibles des vaches à se promener dans la rue, eh bien elle a tenu tête, elle a tenu bon. Et à mon avis c'est une femme qui est tout à fait remarquable parce qu'elle a avec son allure de souplesse et de charme, elle a une force, une énergie absolument extraordinaire que peut-être, je ne veux pas dire du mal de son père, mais que peut-être n'avait pas son père. Et comme homme d'État, en tout cas pour ce qui est de la politique intérieure de l'Inde, je dis que c'est le plus grand homme d'État que l'Inde ait jamais eu.
Oui, on va demander à Manjit Chawla si elle pense que Indira Gandhi peut résoudre ces difficiles problèmes intérieurs.
S'il vous plaît, encore.
Do you think that Mrs. Gandhi can solve these interior problems?
Well, you know, the problems are so grand, they are so big, and it's such a big country, and they're not one problem. There is food, and there is untouchability, there is the religions, beaucoup de religions, vous savez. So, and there's many parties in our assemblies. So like that, the problems are very, very big, very great. So, but we are hoping, we have great faith in her. You know, so I don't think there's any other leader in India these days as much as Indira Gandhi who can lead her people. And they have faith in her.
Le pays est si grand et les problèmes sont si variés qu'on ne peut pas dire, mais l'Inde a confiance en Indira Gandhi.
Est-ce que, Max-Olivier Lacan, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux laisser ces superstitions subsister pendant un certain temps et avoir une action dans une autre direction ?
Oui, je pense que la superstition de la vache, pour prendre celle-là, les autres superstitions, ça n'a aucune importance, celle de la vache a un intérêt économique. Et c'est pourquoi, non, c'est pas seulement symbolique, si vous voulez, il y a un intérêt économique à ce que le bétail utile soit conservé et qu'on ne garde pas des millions et des millions de bêtes qui ne servent rigoureusement à rien qu'à manger la nourriture des autres, et des hommes, donc des hommes au second degré. Et je pense que c'est pourquoi Indira Gandhi est tellement attachée à ce problème de la vache, précisément, et qu'elle traite avec beaucoup de circonspection, avec beaucoup de respect de la conscience et des convictions des autres. C'est une femme extrêmement tolérante, comme tous les Indiens, comme tous les Hindous d'ailleurs. Ce sont des gens extrêmement tolérants. Ils admettent toutes les superstitions, toutes les sornettes, avec beaucoup de gentillesse, mais bien sûr. Et elle est comme ça. C'est une vraie Hindoue,
Indira. Est-ce qu'elle est religieuse ?
Oh, je ne pense pas, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Son père était agnostique tout à fait, mais son père était tolérant, son père était tout à fait agnostique, Nehru. Et il admettait, et elle est probablement comme lui, il admettait absolument toutes les croyances, il n'était contre rien, sauf contre ce qui était vraiment un obstacle au développement de son pays.
Manjit Chawla?
Well, I think she's not religious in the sense that we think religious, like going to the temples and especially saying her prayers in the morning or like that. But she believes very much in the deity, and she has great confidence, and she says, especially in the Indian philosophy. And she says when there's great problems in her life, she always Always, she has then decided by, you know, her intuition also, and by the faith that she has in one creator.
Elle n'est pas pieuse dans le sens qu'elle ne va pas au temple toutes les cinq minutes, mais elle croit en Dieu et quand elle a un problème très difficile à résoudre, elle y est toujours arrivée par sa foi.
Bien, je crois qu'il est temps d'en venir un petit peu au problème extérieur de l'Inde, parce que l'Inde est un pays qui maintenant s'affirme dans le monde entier. Et justement, Tibor Mand vient de rencontrer à Alger, pendant la conférence des non-alignés, Indira Gandhi et lui a posé quelques questions.
Certains observateurs occidentaux, et je fais remarquer à Mme Gandhi, sont enclins à accuser l'Inde, et même Mme Gandhi personnellement, d'avoir certaines tendances dites impérialistes. Pourrait-elle affirmer, lui ai-je demandé, que l'Inde n'a aucune intention de contribuer au démantèlement de ce qui reste du Pakistan?
If I may say so, this is a most extraordinary and unwarranted accusation.
C'est une accusation extraordinaire et sans le moindre fondement, a-t-elle répondu. Nous avons vraiment démontré nos intentions pacifiques et nous sommes vraiment efforcés de nous contrôler en mots et en actions. Nous n'avons pas eu le moindre désir de démanteler le Pakistan. Et en fait, je crois que le fait d'avoir des voisins faibles est le plus grand danger pour un pays. Nous voulons donc que nos voisins soient stables et forts. Un pays se désintègre surtout à cause de ses propres faiblesses intérieures. Et c'est précisément ce qui s'est passé au Pakistan oriental. L'Inde n'est intervenue qu'au dernier moment, lorsque la situation est devenue vraiment menaçante envers nos propres régions orientales. Finalement, nous sommes intervenus à la demande des forces de Bangladesh qui, jusqu'au dernier homme, ont été contre le régime pakistanais. En fait, nous n'avons pas agi avant d'avoir nous-mêmes été attaqués. 7 de nos villes ont été bombardées, et ceci à un moment où nos ministres les plus importants ne se trouvaient même pas dans notre capitale. Ce sont des faits que l'on ne peut pas nier. J'ai dit à plusieurs reprises que nous n'avons pas la moindre intention d'affaiblir le Pakistan. Nous croyons que c'est le Pakistan qui s'affaiblit lui-même avec la politique qu'il a suivie à l'intérieur et qu'il continue de suivre. J'ai ensuite demandé à Mme Gandhi si elle prévoyait des circonstances qui pourraient forcer l'Inde à décider de se doter d'un armement atomique. Nous ne voulons d'un armement atomique sous aucune circonstance, a-t-elle répondu. Nous ne croyons pas que cela nous procurerait une plus grande sécurité, et plus de pays posséderont l'armement atomique, plus la sécurité de tous diminuera, et l'Inde ne désire pas contribuer à cela. Ensuite, j'ai demandé sous quelles conditions Mme Gandhi prévoyait la possibilité d'un rapprochement et la normalisation des relations entre l'Inde et la Chine.
In which India conducts its foreign policy. In spite of all the provocations.
Malgré toutes les provocations de la part de Pékin et l'agression sur nos frontières, nous n'avons pas changé notre politique envers la Chine. Nous continuons de la soutenir à l'ONU et nous continuons de dire que nous souhaitons des meilleures relations. Notre attitude reste donc inchangée. Mais à vrai dire, je ne sais pas ce que nous pourrions faire. Les Chinois ont avancé un prétexte après l'autre. Qui devrait faire le premier pas? Et j'ai interrompu. La question de prestige ne me préoccupe pas, pourvu que cela conduise à quelque chose, Mme Gandhi a répondu. J'ai demandé à Mme Gandhi si elle se sentait concernée par l'armement extraordinairement intensif de l'Iran. Et étant donné l'importance du sujet, je l'ai priée de bien vouloir répondre en français.
C'est vrai que nous considérons avec un certain sens d'appréhension cette augmentation énorme d'armement dans ce pays. Une telle quantité d'armes modernes tend d'encourager leur utilisation directement ou par l'intermédiaire d'autres pays. Ça me rappelle quand le président Eisenhower nous a rassurés que les armes reçues par le Pakistan ne seront jamais utilisées contre nous. En fait, il était utilisé exclusivement contre l'Inde, plusieurs fois. Donc, une certaine inquiétude de notre part est parfaitement justifiée.
Pour conclure, j'ai demandé à Mme Gandhi si elle considérait que le système parlementaire du type nord-atlantique était l'instrument le plus approprié pour confronter les problèmes monumentaux comme ceux de l'Inde.
It doesn't mean that democracy can be only of one type.
Évidemment, c'est un système fragile, a-t-elle répondu, mais je n'en vois pas de meilleur. Mais il existe plusieurs types de démocratie, et le nôtre n'est pas un système à deux parties comme celui de l'Angleterre, par exemple. Mais je crois qu'il faut que nous permettions aux gens de s'exprimer. Probablement que l'on peut accomplir des progrès plus rapides par la coercition, mais en le faisant, on prive les gens de quelque chose d'essentiel, et je ne suis pas sûr qu'ils ne puissent jamais le récupérer. Je crois quand même que dans notre système, malgré tous nos problèmes gigantesques que les étrangers ne peuvent même pas imaginer, même si ce n'est que centimètre par centimètre, nous faisons des progrès et les gens y gagnent en maturité. De temps en temps, ils perdent patience, il y a même des explosions de violence. Mais quand même, les gens ont la possibilité d'évoluer et aussi longtemps que nous pouvons maintenir cette liberté d'évoluer, je pense que le progrès est assuré.
Certainement, un des gros problèmes de l'Inde, c'est d'avoir des voisins très pesants comme la Chine et l'URSS. On a parlé tout à l'heure du Pakistan et Indira Gandhi a démenti les visées impérialistes de l'Inde vis-à-vis du Pakistan. Mais est-ce que l'Inde est vraiment maître du destin du Pakistan? On sait que la Russie cherche un débouché vers l'océan Indien. Max-Olivier Lacan.
Oui, l'histoire de l'Inde et du Pakistan est une vieille histoire qui remonte à la partition, c'est-à-dire à la séparation de l'ancien empire des Indes en un État destiné à servir de refuge aux musulmans de l'Inde, appelé le Pakistan, et à l'Union indienne, l'Inde proprement dite. Et c'est en somme, et depuis très longtemps, une querelle un peu de frères ennemis. Et c'est, sans être paradoxal, on peut dire que c'est, la rivalité entre l'Inde et le Pakistan d'aujourd'hui est une suite d'une lutte de politique intérieure qui a duré pendant 30 ou 40 ans et qui a donné naissance à toutes sortes de conflits et à cette politique de l'Angleterre pour dissocier l'Inde, pour la séparer en deux parties. Il y a un proverbe et un enseignement des lois de Manu, qui était le législateur mythique de l'Inde ancienne, qui dit quelque chose comme « ton ennemi, c'est ton plus proche voisin ». Or, l'Inde et le Pakistan sont des pays qui sont très voisins par la culture, par la vie en commun pendant de nombreux siècles, des millénaires même, et leurs relations ne sont pas exactement celles de deux pays vraiment étrangers. Ils parlent d'abord, dans le nord de l'Inde, on parle à peu près la même langue. À peu de choses près, on l'appelle Hindi, on l'écrit en caractère sanskrit dans l'Inde, et on l'appelle Urdu, on l'écrit en caractère persan dans l'autre, mais à un certain niveau, on se comprend très bien, on parle la même langue. Et par la force des choses, en vertu de la loi de Manu que je mentionnais tout à l'heure, le Pakistan est allé chercher des alliés le plus loin possible et de façon à tourner l'Inde. Il est allé chercher la Chine. Et l'Inde, de son côté, et par opposition au Pakistan, est allé chercher l'URSS qui risquait de faire pression sur les arrières du Pakistan.
Ce traité en 71.
D'où le traité en 71 et toute la politique de l'Inde depuis le début. Et celle du Pakistan était de chercher des appuis d'abord auprès des États-Unis en adhérant l'ancien pacte de Bagdad, ensuite au Seattle, et en même temps en se mettant bien avec la Chine, uniquement par peur de l'Inde. Et l'Inde, par peur du Pakistan, d'une agression pakistanaise, et l'Inde s'est adressée à la Russie, à l'Union soviétique, et pour avoir un grand ami dans cette partie du monde. Et je crois qu'il faut voir cette affaire de l'Inde et du Pakistan comme quelque chose... On peut l'accuser de visée impérialiste, c'est l'affaire du Bangladesh qui a fait dire ça. Et vous savez que le Bengale occidental, le Bengale oriental était partagé entre les deux pays, Inde et Pakistan. C'était un peu une colonie pour le Pakistan occidental. Et le Bangladesh était un petit peu la purge d'une situation qui avait été faite pour les circonstances par les Anglais en 1947. Et ce qui s'est passé devait tôt ou tard arriver. Maintenant, comme l'union des deux Bengales, le Bengale appartenant à l'Inde et le Bengale qui est maintenant Bangladesh, apparaît comme une chose... comme il existe une unité entre les deux, apparaît comme une chose à peu près inéluctable. On peut toujours accuser l'Inde d'impérialisme le jour où le Bangladesh décidera de joindre le Bengale indien. Mais je ne pense pas, je crois que c'est dans la nature des choses plus que dans la volonté impérialiste de l'Inde.
Merci Max-Olivier Lacan. Manjit Chawla, un dernier mot? The last word?
Yes. For Mrs. Indira Gandhi, or would you like me to talk
about this problem of Pakistan?
Well, it was mostly, I think, the refugees who had come to our land, you know, from the Bangladesh, which was such a big problem, you know. So that's why Mrs. Indira Gandhi, our Prime Minister, came all over the world, you know, searching for help, and to USA also, but she was refused from all corners. And by that time, the Pakistan had already invaded India.
Le gros problème était les réfugiés du Pakistan qui sont venus en Inde et Madame Gandhi a fait le tour du monde pour chercher à régler ce problème et avant que ce ne soit fait, le Pakistan a envahi l'Inde.
Merci.
Eh bien, ainsi s'achève donc ce portrait de Indira Gandhi proposé par Olivier Varin.
C'était Autoportrait et portrait de Indira Gandhi, proposé par Olivier Varin dans les après-midi de France Culture, avec Max-Olivier Lacan et Manjit Chaouza et Indira Gandhi. Première diffusion le 21 septembre 1973.